Et donc, du coup, moi, ce que j'ai compris de ces injonctions, c'était que c'était des injonctions qui nous interdisaient à être qui nous sommes, à exprimer qui nous sommes.
Réinvention.
Il existe mille et une manières de se réinventer et l'art en fait partie. Elle est passée de cadre en logistique à artiste multifacette en Provence et elle nous invite à suivre nos rêves car ils savent où nous emmènent. C'est ça sa devise. Mais quand on a une carrière toute tracée et que l'on a des envies d'autre chose et que l'art nous appelle, comment faire concrètement? Mon invité du jour est artiste visionnaire, conférencière, CEO de Art for Global Change. C'est Evelyne Toromagnan. Elle nous raconte avec sa fibre artistique, sa réinvention, la découverte de la peinture, ce que ça lui a apporté alors qu'elle ne se sentait plus du tout à sa place dans sa carrière de cadre logistique et comment elle a envoyé valser les préjugés pour se créer son écosystème sur mesure et son métier multifacette qui met l'art au cœur de son activité. Je laisse donc place à notre conversation. Bonjour Evelyne, je suis heureuse de t'accueillir ici.
Bonjour Nathalie, ben moi aussi, j'étais super impatiente, ça fait quelques semaines qu'on avait pris notre rendez-vous et c'est toujours avec la même joie en fait et je suis très curieuse de voir ce qui va en ressortir.
En tout cas, ça va être un podcast riche en émotions et en sons chantants avec nos accents parce que je pense qu'on va s'influencer, nos accents vont revenir. Et justement, pour commencer, Evelyne, ben, bienvenue et j'aime bien te poser la question suivante qui est « Tout commence par un rêve, quel est le tien ?»
Ah là là, sacré rêve. Pour mettre un peu de contexte, c'est né en 2012 et à ce moment-là, je traverse une période assez chaotique. Parfois, quand il nous arrive quelque chose, c'est pas un quelque chose qui nous arrive, c'est tout un wagon de choses assez catastrophiques. Et donc, du coup, moi, en 3 semaines, j'ai ma vie qui a complètement explosé. J'étais cadre dans les systèmes d'information et à ce moment-là, je suis virée. La semaine d'après, il y a une séparation amoureuse et c'est la fin de nombreuses relations. Donc pendant l'espace de 3 semaines, tout ce que j'avais construit vole en éclats. Je me retrouve seule avec un émotionnel à fleur de peau. J'ai toujours été hypersensible, sauf que je ne savais pas. J'avais tout renfermé à l'intérieur de moi. Et donc du coup, à ce moment-là, ben, il y a une brèche qui s'est ouverte suffisamment grande pour laisser passer la lumière. Et j'ai fait ce rêve. Ce rêve où je me sens projetée dans l'univers, je suis en plein vide, c'est le noir complet, mais je me sens bien. Et tout à coup, je vois en fait une lumière, une spirale d'énergie qui vient à moi, avec des couleurs dont je n'avais jamais vu dans notre réalité. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant que le matin, à mon réveil, bah, du coup, je me suis dit, mais après tout, j'ai rien à perdre. Et si je peignais ça? Et c'était vraiment un rêve en état modifié de conscience, des états où on n'est pas tout à fait endormi, pas tout à fait réveillé. Et pour moi, cela était un déclic. Parce que c'est là où, du coup, ma carrière d'artiste a commencé. Alors, non, comme vous avez pu l'entendre, j'ai pas choisi de faire artiste pour premier choix de carrière. Pour moi, le business, c'était le truc qui me passionnait, qui m'inspirait, qui était vivant pour moi. J'étais loin d'être soutenue dans mes talents artistiques. J'avais pas l'environnement pour. Entre deux déplacements professionnels, je pleurais pas en me disant, bah tiens, pourquoi je vis pas ma vie d'artiste? J'aurais voulu être une artiste. Non, non, j'étais à mille lieues de ça. Et pourtant, c'était un appel de la vie, à un moment donné, un rêve qui m'a inspirée à peindre, tout simplement.
Quel beau rêve et quelle belle introduction justement pour parler de ta réinvention. Tu nous dis qu'en 2012, tu as tout quitté, ou en tout cas, tu as quitté ta vie de salarié dans le business pour te réinventer. Est-ce que tu peux justement te présenter aujourd'hui et nous parler de cette réinvention? C'est-à-dire que j'aimerais que nos auditrices, elles comprennent de avant, Evelyne faisait ça et maintenant, elle fait ça.
Déjà, en tant que femme, j'étais très masculine, j'étais très déconnectée de mon corps, même si j'adorais danser la salsa, j'avais un côté très sexy, sensuel, etc. J'assumais qui j'étais, etc. Mais quand même, au niveau de l'émotion, j'osais pas dire qui j'étais, j'osais pas exprimer mes sentiments. Les émotions, c'est quelque chose qui était impossible. Et j'étais une workaholic. logique, donc c'est-à-dire j'avais envie de réussir, c'était vraiment mon seul objectif dans ma vie, monter et tout ça. Donc du coup, j'ai pu atteindre des postes très très bien rémunérés, jusqu'à 100 000 euros annuels. Je pars de là. Et en fait, là, aujourd'hui, qui je suis, ben, je suis toujours cette même femme, sauf qu'en fait, la différence, c'est que je suis extrêmement connectée à mon corps, extrêmement connectée à mes émotions, extrêmement connectée aux énergies qui m'entourent, c'est-à-dire tout ce qui est invisible, impalpable, ce qui est de l'ordre de ces hypersens aussi. Et aujourd'hui, ben, je suis artiste. Alors, artiste plus, parce qu'il y a tellement d'autres, si je commence à dire chamane, entrepreneur, conférencière, auteur, etc. Oui, je peux en dire plein, mais ce qui me caractérise, c'est être artiste. Alors, je suis artiste parce que j'adore, du coup, continuer ma voix d'artiste pluriel, parce que je chante, j'écris, je danse, je peins et j'aime simplement retranscrire l'énergie de vie en passant par l'art et par le business et à me laisser simplement traverser par ce qui est là. Et au final, pour moi, être une femme, être vraiment dans son féminin, dans un féminin profond et un féminin qui est où se rencontre quelque part son aspect féminin, son aspect masculin, dans cet espace créateur, c'est véritablement pouvoir être présent et accueillir tout ce qui nous traverse et pouvoir amener dans la matière, dans le concret, en passant par l'art, l'expression, par la relation, par l'argent. Voilà, et par tout ça. Et c'est au final de venir être dans un état créateur. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, je suis artiste pluriel, j'adore créer tout un tas d'univers qui soient oniriques, organiques, orgasmiques aussi, parce que c'est très explosif dans ce que je crée. Et j'adore aussi accompagner les femmes, donc artistes et entrepreneurs qui viennent me voir. Mais je ne les accompagne pas comme une coach, parce que je suis pas coach. Je ne les accompagne pas comme une thérapeute, parce que je suis pas thérapeute. Je ne les accompagne pas comme une consultante. Mais je les accompagne comme, quelque part, un chef d'orchestre. La chef de projet que j'ai été d'une manière très globale. Je pourrais dire ça, c'est aujourd'hui, moi, ce que j'aime accompagner, c'est la globalité de l'être humain qui va, du coup, rentrer dans un processus de création artistique et entrepreneuriale. Et quand on est dans ça, on va au-delà de cette dimension très codifiée et très limitée du coach et du consultant, et on rentre dans une dimension très, très entière. Mais dans le sens entière, parce que ça vient de ses tripes, de son cœur, etc., mais aussi entière dans l'intégralité de nos talents, l'intégralité de nos passions, l'intégralité de qui nous sommes, de nos multidimensions. On rentre dans une forme de multidimensionnalité qui est là et qui est importante aujourd'hui à œuvrer. Et donc, du coup, voilà, c'est ainsi que j'accompagne mes clients, un peu comme une femme sage qui pourrait accompagner ses clients et qui les accompagne dans simplement accueillir ce qui est en train d'éclore. Et ça, c'est un processus de présence à la vie, et qui est tellement puissant et tellement rare aujourd'hui, et tellement d'une nécessité publique, je dirais même.
Tu nous as transporté dans la définition, ou en tout cas dans toute la pluralité de qui tu es aujourd'hui et de ce que tu fais. Ce que j'adore dans la manière dont tu en parles, c'est que, eh bien, tu sors complètement des cases. Tu ne m'as pas dit je suis ci ou ça. En tout cas, ce que tu nous as raconté, c'était que tu t'étais réinventé en quittant la supply chain et en devenant aujourd'hui artiste pluriel et plus encore. Tu nous as parlé de ce déclic, ou en tout cas de cette explosion entre guillemets qui est arrivée en 2012, mais quel a été ton cheminement justement pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, pour que les femmes qui souhaitent se réinventer puissent se dire, ok, bah, le premier petit pas, ça a été ça chez Evelyne, le deuxième pas, pour qu'on puisse retracer un petit peu les étapes de ta réinvention, si tu veux bien.
C'est important ce que tu dis parce que ça s'est pas fait en un jour et je trouve que ça c'est un problème quand on va rentrer dans sa réinvention. On voit et on se compare beaucoup. Et ça, c'est pas bon parce qu'en fait, on compare l'incomparable. Là, aujourd'hui, ne vous comparez ni à Nathalie, pardon, ni à moi parce que ben, c'est des années et des années. Donc, du coup, on peut pas se comparer avec ce qui est là. Donc, c'est revenir au premier pas. Moi, dans mon processus de réinvention, alors c'est pas anodin que la voix artistique est venue à moi parce que, à la base, dans mon expérience, expérience de vie qui a été très marquante, il y a eu aussi 25 ans de bégaiement. Un bégaiement profond, hein, vraiment à pas pouvoir parler, à être vraiment à pouvoir, ah, c'était fort. Et pour moi, c'était tellement fort cette expérience que c'était comme une suite logique à un moment donné de pouvoir faire ça. Et le premier pas a été OK. Je me suis pas reconnue en tant qu'artiste immédiatement. C'est-à-dire quand j'étais en parallèle de mon poste de chef de projet et que je continuais à peindre, je me suis pas dit je vais être artiste. C'était loin de ma conscience. Le premier pas pour moi a été je suis créatif, j'aime ça. J'avais aussi à ce moment-là tous mes talents, on va dire, extrasensoriels, chamaniques, qui se sont réveillés. Donc du coup, pour moi, ça a été plus un appel de transmettre ce qui venait de l'ordre de l'invisible, de l'indicible. J'avais plus envie d'accompagner les femmes dans ce processus d'empuissancement. Et parce que c'était le chemin par lequel j'étais passée, de pouvoir oser me dire, de pouvoir réussir à pouvoir m'exprimer. Pour moi, j'avais envie de créer des espaces de libre expression. Et la peinture a été un espace où, clairement, j'avais mis tout le monde à la porte. Non, ça, c'est mon espace à moi. En gros, fuck, je ne laisse rentrer personne dans cet espace, je fais ce que je veux. Tu vois, c'est vraiment ça. Bah tiens, j'avais vécu plusieurs choses, le bégaiement, il y avait même eu un abus sexuel qui était là. Donc du coup, j'avais envie de pouvoir guider les femmes. Mais je me suis dit, j'ai pas les outils et je suis pas thérapeute, même si je savais former, même si je savais animer des équipes, parce que l'entreprise, c'est vraiment une super école. Ça a été une super école pour moi. Est-ce que j'applique encore des outils que j'ai appris? Et moi, le premier truc, ça a été de me former et de devenir sophrologue. Pour moi, ça a été une porte d'entrée. J'ai eu besoin d'avoir quelque chose de structurant. Et ça faisait sens par rapport à mon parcours parce que moi, la première chose qui m'a amenée dans ce chemin de réinvention, c'était la vision que j'avais eue. C'était on va dire, cet état modifié de conscience qui s'était présenté à moi. Et donc, du coup, je l'avais eu envie parce que elle a amené les personnes à voyager à l'intérieur, à connecter leur monde intérieur. C'est quelque chose qui me fascine. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, bah, peut-être que je vais pouvoir, au travers de la sophrologie, acquérir certains outils et pouvoir guider en ce sens. Moi, ma première étape, ça a été la formation pour devenir sophrologue et d'avoir des outils concrets, pour pas faire n'importe quoi, parce que j'ai toujours, pour moi, l'intégrité a toujours été une clé, et c'est accompagner l'humain, c'est une sacrée responsabilité, et pour moi, c'était inadmissible d'accompagner dans quelque chose où j'étais pas pleinement assise en moi. Il y avait une assise et un professionnalisme qui devait être là, tout en laissant se déployer des talents que j'avais et que je ne savais pas que j'avais, mais qui pouvaient être aussi une contribution, mais associé à quelque chose de concret, de structuré. Donc la sophrologie m'a permis ça. Et donc du coup, parce qu'il y avait la sophrologie, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer en faisant des cercles de femmes. Et là, j'ai mêlé sophrologie, chamanisme, connexion à soi, créativité. Et c'est là où j'ai commencé à faire vivre tout cet univers et cette multipotentialité, cette pluralité, et à créer des accompagnements complètement uniques, complètement innovant, qui n'existait pas, parce que j'avais cette envie-là. Donc pour moi, la première étape, ça a été ça. Et parce que j'ai commencé à faire cela, pour moi, ça a été ma première étape, mon premier chemin. Et ensuite, mais je me sentais pas artiste, je me sentais entrepreneuse créative, je me sentais plus peut-être un peu chamane, j'étais plus dans la guérison, dans l'accompagnement du corps et de la libération de ces traumas. Et à partir de ce moment-là, parce que j'avais comme passé un niveau et que ce niveau était bien ancré, bah tiens, naturellement, j'ai eu un truc à l'intérieur qui m'a dit, mais tiens, j'ai envie d'exposer. Mais je sais pas exposer. Et j'en avais fait l'expérience, parce que dans le centre où j'animais mes cercles de femmes, à la fin, il y avait les organisateurs du stand et les propriétaires me disaient, mais tu veux pas exposer tes tableaux? Ça pourrait être juste génial. Donc, du coup, tu vois, ouais, pourquoi pas? Donc, j'expose, mais à l'époque, je suis pas à l'aise d'être artiste. J'ai limite honte quand on me demande de parler de mes tableaux. Je suis gênée. Je sais pas quoi en dire. Limite, j'ai envie de dire, mais démerdez-vous. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me rends compte que ben, j'ai atteint une limite et je ne sais pas exposer. Et donc, du coup, naturellement, parce que je ne sais pas exposer, je suis allée trouver un autre du soutien. J'ai appris à exposer, j'ai appris à être présente, j'ai appris à me valider en tant qu'artiste. Ça a été un long chemin. J'ai appris à pouvoir parler de mes œuvres et avec mes œuvres. J'ai appris à faire le lien avec le public et mon art, à fixer un prix, etc. Et donc, du coup, tout ça s'est fait un peu comme ça. Après, il y a eu des réinventions dans la réinvention et c'est juste sans fin. Donc du coup là en résumé 10 ans c'est long. Après il y a eu l'espace où je me suis dit tiens je vais accompagner les entrepreneurs parce que j'ai des choses à en dire. Ah ben tiens et si maintenant je montais sur scène donc pour faire de la conférence et mêler ce que j'avais à transmettre avec mon art, chanter sur scène aussi. Et le chemin, il est sans fin. Et là, aujourd'hui, ben, j'accompagne autant les entrepreneurs créatifs qui ont envie de créer vraiment des processus de transformation par les arts, la voix et le corps, que les artistes qui ont envie d'exposer, de monter sur scène, de créer un business avec leur art et leur processus créatif. Et donc, du coup, le premier pas, c'est quel est son premier pas? Et son premier pas, il n'est pas dicté par l'extérieur. Il n'est pas, il va pas être de cet ami qui vous donne un conseil. Ne prenez pas ça. Ne prenez pas des conseils de l'extérieur. Il est dans un retour à l'intérieur. Il y a uniquement vous qui savez. Et moi, si j'avais vraiment un truc à transmettre, qui va pouvoir vous faire gagner du temps, et de l'argent, c'est qu'il n'y a personne d'autre que vous qui sait ce qu'il y a de meilleur pour vous, votre art et votre business. Et c'est une invitation à vraiment revenir à l'intérieur, à peut-être méditer, à peut-être faire du journaling, à peut-être peindre, à peut-être aller faire une balade, faire quelque chose où vous allez simplement envoyer à la vie la question, c'est quoi mon premier pas? Et vous laissez venir l'information peut-être un jour sur les réseaux sociaux, peut-être en discutant, en écoutant ce podcast-là. Il y a ce quelque chose, mais c'est vraiment ce premier pas qui est le plus dur et qui est aussi déterminant. Et très souvent, on le connaît, mais on ne le fait pas.
Nous a encore une fois transporté avec ce premier pas et tout le cheminement. En tout cas, ça montre que la réinvention, on la crée soi-même de toutes pièces en partant de soi. Ça nous invite à revenir à soi. Et moi, j'ai envie justement de revenir sur ce que tu nous as dit, sur la partie je fais ce que je veux, j'ai envie de créer mon espace. Du coup, si on revient pas à soi, mais on revient à l'extérieur, je fais ce que je veux, c'est un petit peu la manifestation des injonctions auxquelles on est confronté en tant que femme quand on a une carrière. Justement, tu nous as parlé de ta carrière en supply chain. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les injonctions qui t'habitaient? Ou que tu as, auquel tu as dû faire face avant de te réinventer, parce que on est toutes confrontées et en fait on en fait peut-être parfois des croyances et des vérités auxquelles toi tu as tout envoyé valser. Donc est-ce que tu peux nous partager aussi cette réflexion-là?
Moi, ce qui me vient là quand tu dis ça, moi j'aime bien titiller, casser les codes et faire se rencontrer des choses qui n'ont pas forcément à se marier ensemble. Et à un moment donné, j'accompagnais des entrepreneurs sur ce que j'ai appelé la voie orgasmique. J'accompagnais les femmes entrepreneurs à créer un business et une vie orgasmique et créative. C'est orgasmique, c'était ce quelque chose qui nous allume. Et quand j'en parlais aux femmes, tiens, il y en avait qui trouvaient ça puissant, ça les allumait, oui, un business connecté à nos désirs, à qui nous sommes, à ce qui nous allume, ça faisait sens. Et quand ce quelque chose, il était à destination des hommes, que les hommes le recevaient, oh, ils étaient en panique. Genre, ouais, mais c'est un côté provoque, tu fais de la provoque, machin truc. Oui, mais orgasmic business, ça renvoie à la prostitution, tout un tas de trucs. Et je trouve que, en fait, ce qui est important de comprendre avec cette illustration, c'est que chaque mot et chaque même être humain, ça va résonner par rapport à notre propre constitution, la propre bulle dans laquelle on est, le propre terreau, d'une manière complètement unique, parce que nous sommes uniques. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai compris de ces injonctions, c'était que c'était des injonctions qui nous interdisaient à être qui nous sommes, à exprimer qui nous sommes. Combien de fois, ben, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, si vous êtes artiste, entrepreneur, ben, que vous désirez écrire vos pages de vente, ben, vous dites, ah non, je peux pas écrire ça, ils vont trouver que c'est trop perché, etc. Je peux pas être ça, je vais me faire rejeter, etc. Ben, au bout d'un moment, pour moi, j'aime bien me dire, mais c'est quand le moment où je vais être moi? Parce que si j'écoute plus les injonctions et si je me laisse diriger par ces injonctions extérieures, en fait, je vais passer ma vie à être une pâle personne, à être une version de moi minime. Et moi, j'ai envie de pouvoir être tout de moi. C'est important d'aller faire l'expérience de ces injonctions et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ces personnes ou de ces entrepreneurs qui vous disent non, pour développer votre business, tu dois faire ça, ça et ça. D'aller jusqu'au bout de ces personnes qui vous imposent une manière de penser. Et à un moment donné, vous allez toucher un espace où vous allez vous dire fuck, c'est plus possible. Non. Et vous allez poser un non. Et ce non, il va venir de vos tripes. Il va sortir puissamment, un peu comme si vous accouchiez d'un truc. Et ça, peut-être qu'il va avoir de la colère, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, ce quelque chose, cette énergie de vie qui va sortir, ça va être votre moment qui vous dit à partir de maintenant, je me choisis. Et parce que je me choisis, ben, je vais être qui je suis, je vais créer ce que j'ai envie de créer, je vais le faire depuis mes propres codes. Et c'est ça la voie de l'artiste pour moi. L'artiste, il se libère de tous les codes. Alors moi, pourquoi j'ai ce chemin et pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que j'ai eu une éducation qui a été très très stricte, trop stricte pour moi, où mon énergie de vie a été tout le temps contractée et qu'elle n'est pas dans l'expansion, on se sent pas libre. Et moi, c'est dans cette contrainte-là que je suis allée puiser ce désir de liberté, et c'est au travers de l'art que ça s'est passé. Et plus, en fait, je suis rentrée dans des processus de création qui m'ont amené cette liberté d'être, cette liberté d'exprimer, et plus, en fait, ça débordait de la toile, ça débordait du canevas pour entrer dans la toile de ma vie, dans la toile de mon business, de la toile de mes relations, etc. Et pour, comme laisser expanser cette liberté d'être qui nous sommes, bah, dans chaque espace de nos vies, dans chaque dimension. Donc voilà. Et ça, c'est une nécessité. C'est une nécessité sociétale, je dirais même. Parce que plus on va rentrer dans cette autorisation pleine d'être qui nous sommes, de pouvoir être tellement proche de soi, tellement intime avec soi que l'on crée exactement ce pourquoi nous sommes nés, et plus en fait il va avoir cette transformation sociétale qui va pouvoir prendre forme et donner naissance, éclore tout simplement.
Eh bien, sans le vouloir, tu as répondu justement à ma question que je ne t'avais même pas posée, celle de quand on se réinvente, ça veut dire aussi partir à l'exploration de qui nous sommes, partir à la rencontre et à la découverte de soi, chose qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on n'apprend pas forcément aussi avec l'éducation qu'on nous donne, surtout quand on est une fille, on a souvent, comme tu le dis, une éducation assez stricte. Du coup, tu nous as expliqué comment tu as vécu cette quête de soi et comment tu t'es autorisée à être toi et à déborder de la toile. Il y a une autre question du coup qui me titille, c'est celle du jugement extérieur. Quand on se réinvente, et surtout quand on a une carrière prometteuse, comme tu nous l'as expliqué, tu étais dans des postes à responsabilité en supply chain avec un salaire hyper confortable, et en 2012, tout bascule et tu décides de commencer les premiers pas vers ta réinvention. Mais c'est comme un petit peu sauter dans le vide sans parachute. Il y a cette peur qu'on a, cette peur intérieure, mais il y a aussi le jugement extérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as, bah, vécu tout ça, la peur et le jugement extérieur?
En fait, je crois que j'aimerais partager une expérience. C'est que à un moment donné, quand on vit un processus intérieur, parce que sa réinvention, c'est avant tout un processus de transformation intérieure, on commence à vibrer. J'aimerais bien utiliser ce terme. On commence à vibrer notre identité. Et ce qui se joue, c'est que on vit en quelque chose. Peut-être on est dans un job, peut-être on est dans une relation amoureuse, on vit dans un certain lieu, et on s'aperçoit que ce que l'on vit n'est plus trop en conformité, en accord avec qui nous sommes devenus aujourd'hui. Il y a comme un ancien soi et un nouveau soi, et parfois le nouveau soi, il n'est pas tout à fait encore installé, on a le cul entre deux chaises. C'est un peu cette expression, moi, que j'aime bien, mais c'est un peu ça. On est dans un entre-deux et c'est pas très confortable, voilà. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où on se sent, on commence à regarder un peu son environnement, son job, et on se dit, mais non, ça me correspond plus, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Et en fait, moi, ça s'est passé comme ça. À l'époque, j'étais freelance. J'étais en mission chez un client, et je me dis, mais j'en ai marre. Je trouvais plus de sens à ce que je faisais, à mon métier. Je me dis, mais c'est quand que je vais y aller? Et que je vais faire ce grand saut et que je vais me mettre à mon compte. Donc j'étais dans cette transition. Et puis j'étais sur mon ordi en train de faire des choses du quotidien dans mon business. Et il y a un truc qui m'est tombé comme une douche à ce moment-là. Et j'entends intérieurement ma voix, tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as plus besoin de travailler. À ce moment-là, je m'effondre en pleurs. Pour moi, c'était une forme d'appel. Dire c'est l'âme qui s'exprime et qui dit c'est le moment maintenant, c'est fini. 3 jours plus tard, ou même l'espace d'une journée, je reçois un message de mon prestataire qui me disait que potentiellement ma mission pouvait s'arrêter. Et j'étais trop contente. Et au final, ils l'ont prolongé encore de quelques mois, mais c'est moi à ce moment-là qui ai mis un terme en disant non, c'est le moment pour moi de pouvoir partir. Alors tout ça pour dire que c'est très unique à chacun. Alors moi, ma manière dont j'ai fait ce grand saut, il a été ce qu'il a été, mais parce que j'ai vécu ce sentiment d'évidence profond intérieur. Qu'importe ce que l'on me disait, je savais que c'était ça que j'avais à faire. Alors oui, il y a eu des jugements. Oui, ça n'a pas été simple. Oui, parce que j'étais dans quelque chose de complètement... J'étais pas dans une voie très cartésienne, très concrète, une voie très structurée, une voie où je savais comment j'allais pouvoir évoluer. Par exemple, quand tu rentres en entreprise, dans le métier du consulting, tu rentres, t'es consultant, puis t'es chef de projet, puis t'es di directeur de projet, puis éventuellement chef de produit, machin truc. T'as quelque chose de plus ou moins connu. Mais dans ces voies et dans ces métiers nouveaux que nous sommes en train de réinventer, parce que c'est une réelle réinvention, ben, on n'a pas cette visibilité, on n'a pas cette vision, et cette vision, elle se crée au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure que l'on marche. Donc c'est vrai que pour des personnes qui n'ont pas connu de réinvention, qui sont dans des métiers, on va dire, classiques et des vies assez classiques, il y a de la peur. Et donc du coup, les autres vont projeter leur propre peur, leur propre limitation, leur propre jugement. Et ce que vous renvoyez, c'est ça ne veut rien dire sur vous. En tout cas, moi, j'ai compris ça avec le recul. C'est que ce que l'autre dit de vous, ses propres jugements n'ont rien à voir avec vous. Il parle juste de lui. Il parle juste du fait que bah, lui, il ne se choisit pas. Lui, il ne s'autorise pas cela. Et c'est bien d'avoir cette prise de recul quand vous recevez un jugement, de vous dire, OK, est-ce que ça me touche? Alors parfois oui, ça nous touche parce que personne aime recevoir un jugement, mais si on essaie de regarder ça avec un peu plus de sagesse et une prise de recul, on peut s'apercevoir que ben, l'autre peut-être qu'il avait d'autres aspirations pour nous, surtout quand ça vient ben, de membres de sa famille, parce que très souvent ils ne soutiennent pas, ils ne comprennent pas. Et c'est OK, c'est peut-être pas leur rôle de soutenir parce qu'ils avaient imaginé autre chose pour vous. Et c'est ça aussi qui fait partie du déconditionnement, de cette désidentification, de se désidentifier aussi de ce que la structure familiale avait imaginé pour vous en termes d'évolution, en termes de cheminement, etc. Et à ce moment-là, c'est un acte extrêmement puissant parce que vous prenez, je pense, en tout cas dans mon processus, quand vous osez faire quelque chose qui a rien à voir avec ce que la structure familiale inconsciemment a projeté sur vous, c'est là que vous devenez véritablement libre et vous rentrez dans votre indépendance en tant qu'être et vous mettez à vivre, non pas ce que votre famille a projeté sur vous d'une manière inconsciente, mais vous commencez à marcher votre chemin de conscience, ce chemin d'être, qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et très souvent, ben, la famille, peut-être le pressent au niveau inconscient parce que ça va faire bouger, ça va les faire bouger. Votre réinvention, oui, vous fait bouger à vous. Ça fait bouger votre place au sein de la structure familiale. Ça fait bouger de nombreux membres de votre structure familiale. Ça fait bouger vos amis. Vous apercevez que vos amis ne sont parfois pas vos amis. Parfois, ça fait le tri. Et je trouve que c'est un chemin tellement, lumineux, dans le sens où ça amène de la lumière sur des zones d'ombre, qui fait que, bah, du coup, tout ce qui n'est pas en alignement, ça vire, en fait. C'est un chemin qui va vous permettre d'éclairer là où, effectivement, vous vous êtes menti, vous vous êtes laissé mentir, etc. Et là où il y a des vrais amis et des faux amis, et ça remet les choses vraiment en alignement. Alors parfois c'est violent, surtout quand on y résiste, surtout quand on est dans des structures égotiques très très ancrées, voilà, c'est normal, hein, mais ça remet en alignement et ça vous remet dans l'axe, et c'est extrêmement puissant. Voilà un peu ce que m'inspire ta question.
Tu nous partages aussi dans la partie des jugements que de toute manière il y en aura et que ça projette souvent les peurs de ce que les autres pensent. Ça me ramène aussi moi à ma propre réinvention. Quand j'ai quitté le monde corporate marketing pour me réinventer ma première pierre à moi, ça n'a pas été la peinture, ça a été la cuisine. C'est une forme d'art selon moi qui m'a permis en fait de me reconnecter, même si aujourd'hui je n'ai pas ouvert de restaurant, en tout cas pas encore, ou pas de restaurant traditionnel. Mais il y a des personnes qui m'ont dit autour de moi, je t'envie tellement, mais je suis hyper jalouse et jamais je n'oserai. Le fait de dire jamais je n'oserai, ça montre aussi qu'il y a une manière de s'autoriser et ensuite il y a une manière de s'entourer parce que tu nous parles de la réinvention, le fait que ce soit un chemin lumineux, mais que ça fasse aussi bouger les lignes, nos propres lignes et les lignes autour de soi. Et du coup, il y a cette partie d'incompréhension que je voudrais partager avec toi et l'importance de s'entourer. Ce que j'ai l'impression, du coup, c'est ce que j'essaie de faire vivre dans ce podcast où j'invite des réinventeuses, au final, des femmes comme toi qui ont décidé de créer leur écosystème professionnel ou de casser les codes ou en tout cas de se créer leur propre code et d'être dans un peu un monde parallèle ou en tout cas d'être entourée. Est-ce que tu peux nous partager aussi comment tu as été entourée, toi, ou en tout cas l'importance de s'entourer? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast et le mouvement des réinventeuses pour ne pas rester seule dans sa réinvention et essayer de se créer une safe place pour s'autoriser à être soi. Comment tu as été entourée ou comment tu as fait, toi, pour ne pas faire ce chemin toute seule et ne pas devenir folle au passage?
Ouais, c'est vrai qu'il y a une question de santé mentale, hein, qui est en jeu. Merci de soulever ça. Alors, pour moi, être entourée, c'était clé. Et pour moi, c'est parce que je me suis fait accompagner que j'ai eu le système, j'allais dire le système de survie. Parce que oui, c'est quelque chose qui nous maintient en vie. Parce que sinon, on peut basculer dans ce processus de survie. Quand on n'est pas pleinement entouré, quand on n'a pas des personnes qui nous soutiennent et que l'on est uniquement entouré de personnes, on va dire, j'aime pas dire négatives et positives, etc., mais en tout cas des personnes qui ne croient pas en vous, alors que vous n'y croyez pas. Ça, c'est essentiel d'être entouré de personnes qui y croit même si vous, parfois, vous n'y croyez pas, qui y croit même si vous n'avez pas encore des résultats concrets. Parce que ce qui se joue, c'est que il y a d'abord une préparation dans l'invisible, dans l'intériorité, avant que ça prenne forme dans la matière. En physique quantique, on dit que la matière, c'est la condensation de l'énergie. Et pour que quelque chose puisse naître, un bébé, d'abord, c'est une âme qui s'incarne et c'est le processus. 9 mois de gestation, vous ne le voyez pas encore. C'est la même chose dans votre projet entrepreneurial et votre projet de réinvention. Il va avoir des aspects invisibles. Et c'est important d'être entouré de personnes qui ont marché le chemin. Pas de personnes qui disent que ça doit se passer comme ça. Parce que les personnes qui ont marché le chemin, elles ont l'expérience incarnée. Et pour moi, ben parfois, cela m'a fait défaut parce que j'ai toujours été très pionnière dans ce que j'ai pu créer. Donc du coup, j'ai souvent eu l'impression de marcher le chemin en avance et d'ouvrir une voie. Oui, j'avais des personnes ressources, mais qui ne pouvaient pas en fait me permettre d'intégrer mes multifacettes. Et donc du coup, très souvent, moi, j'ai dû me faire accompagner par de multiples personnes en même temps. Que le système soit vraiment aidant. Donc du coup, il y a eu vraiment ça. Il y a eu vraiment des formations en ligne que j'ai fait, des accompagnements en individuel, en collectif. Et donc du coup, c'est ça. C'est pour moi, ça a été être entouré par les bonnes personnes et des personnes qui avaient la véritable expérience, pas 1 an, 2 ans, mais vraiment des fois 5 ans, 6 ans, qui avaient plusieurs pas d'avance par rapport à moi. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi. Et puis après, au fur et à mesure, ben, quand on commence à marcher sa réinvention, on commence à vibrer en quelque chose qui fait que l'on va attirer naturellement par les hasards de la vie, par les synchronicités, par les nouvelles activités aussi que l'on fait, bah tiens, on va rencontrer des personnes qui sont dans cette similarité. LinkedIn est un super moyen pour ça. Tiens, il y a ça, il y a les réseaux sociaux, il y a comment je peux aussi nourrir cette curiosité d'aller chercher. Et je trouve que on peut vite sombrer dans, bah tiens, je suis seule. Ok, je suis seule, il y a personne qui est là, il y a personne qui me comprend, etc. Mais là, le truc, c'est un peu faussé parce que quand on fait ça, on s'enferme dans cette réalité. C'est-à-dire que même si on peut peut-être, il peut y avoir tout autour de nous plein de personnes qui pourraient, avec lesquelles on pourrait jouer, vibrer, je sais pas, pouvoir échanger sur ce que l'on vit, mais parce qu'on est enfermé dans ces conditionnements de se dire, bah tiens, bah je suis seule, il y a personne qui existe, etc. Bah du coup on se coupe de tout ça. Et c'est arrêter de mettre de l'énergie sur le fait que je suis seule, que je suis pas entourée, que je suis pas compris, que mon entourage ne me comprend pas, que mon entourage ne me soutient pas, parce que on est créateur de notre réalité aussi. Et donc du coup c'est déporter ça. Et je sais que parfois il y a des jours où clairement on se sent seul. Clairement c'est pas évident parce que oui. C'est aussi un chemin de solitude. Et c'est un chemin de solitude nécessaire pour aller connecter à soi. Parce qu'il y a un chemin à faire qui est aussi seul. Mais il y a cette nécessité de déporter l'énergie. Ok, je me sens seule, c'est qu'est-ce que je fais concrètement? Ok, j'ai besoin de rencontrer du monde, c'est comment je... Où est-ce que ces personnes-là avec qui je vais pouvoir partager ma réinvention sont? Ah bah tiens, peut-être que je peux rejoindre le groupe de Nathalie. C'est le signal, je te fais ta promo. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ben, moi aussi, moi j'ai pas trouvé le système de soutien intégral comme je le désirais. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ce que j'ai fait, c'est que pour moi, c'était tellement essentiel parce que cela m'avait manqué dans mon environnement. C'est pour ça que j'ai créé des cercles de femmes. C'est pour ça que j'ai créé des différents collectifs. Et c'est aussi à un moment donné pour ça, ben tiens, c'est aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce quelque chose qui nous a manqué. Donc si vous êtes seul, vous avez le pouvoir de pouvoir transformer ça. Juste en déportant votre énergie et en demandant, ben tiens, où est-ce que je pourrais rencontrer des personnes autour de moi ou en ligne qui vont pouvoir être peut-être des amis, peut-être des personnes avec qui je vais pouvoir cheminer ou même des personnes qui vont pouvoir m'accompagner en respectant l'intégrité de qui je suis. Et quand on se pose clairement avec son désir, alors les choses sont très claires et ça arrive.
Du coup, tu nous partages l'importance de se faire accompagner, en tout cas de s'entourer, pour créer son profil multifacette. Donc, si je lis aujourd'hui ton profil multifacette sur LinkedIn, justement, tu marques que tu es artiste visionnaire, conférencière, chamane et CEO de Art for Global Change. Et aussi, tu es créatrice du podcast Powerful Artist. Tu prônes de revenir à la base, au bassin, à l'origine du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu combines tes multiples facettes aujourd'hui? Et ensuite, tu me diras comment justement choisir ou refuser de choisir par rapport à sa réinvention.
J'ai envie de te dire que moi, quand j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, hein, il s'est quand même passé 10 ans dans l'industrie de l'accompagnement en ligne, etc. Il n'y avait pas autant de profils multipotentiels, multiples, multidimensionnels, etc. Et donc, du coup, quand je me faisais coacher, on me disait, mais tu peux pas être tout ça. Il faut choisir. Et moi, en fait, j'y arrivais pas. Et donc, du coup, à un moment donné, on me disait, bah, tiens, il faut que tu crées une offre, il faut que tu choisisses. T'as qu'à choisir le féminin parce que c'est ça qui te porte. Oui, mais il y a aussi cette dimension d'accompagnement plus vibratoire, énergétique au travers du chamanisme. Il y a aussi cet accompagnement sur les arts, la voix, le son, la créativité. Oui, il y a cette dimension sur la relation, la sexualité, la créativité. J'y arrivais pas, quoi. Moi, je suis un écosystème. C'est comme, en fait, si tu demandais à la Terre de choisir entre la mer et les montagnes. C'est pas possible. Je te l'ai dit avec l'accent marseillais, en plus. T'as vu ça?
C'est chantant.
C'est chantant, voilà. Et je peux pas choisir. Et donc, du coup, à un moment donné, vu que cet accompagnement ne convenait pas, j'ai fait le contraire de ce qu'on m'avait dit. J'ai dit, tu sais quoi, je vais faire un truc, j'ai tout rassemblé. Ok, et j'ai créé mon premier accompagnement, c'était très, très, il y a plusieurs années. C'était vraiment un accompagnement global où il y avait effectivement du féminin et du masculin, du chamanisme énergétique avec la voix, où j'invitais les personnes à peindre, à s'exprimer par les différents moyens, et ça a été super transformateur pour les personnes. J'ai même, au travers de ça, accompagné des personnes à libérer des abus sexuels de plus de 18 ans, où la personne a été complètement tétanisée à s'exprimer, une émotionnelle à fleur de peau, etc. Au final, la morale de cette histoire, c'est que quand je me suis autorisée à ne pas choisir et à tout intégrer, c'est là où j'ai été une réelle contribution pour le monde. Voilà. Mais ça, c'est très unique à chacun. Ça a été ma voix, c'est peut-être pas la vôtre. Et ça, c'est très subtil et c'est à écouter en profondeur. Mais pour moi, c'était comme ça. Et même à un moment donné, j'étais en train de basculer mon activité pour accompagner plus les profils d'entrepreneurs. Et je me suis dit, ben, tiens, ok, je peux pas accompagner et sur la sexualité et sur l'entrepreneuriat, il faut que je choisisse. Parce que c'est tellement des conditionnements ancrés que il faut choisir, il faut se sacrifier, un truc plutôt qu'un autre, être mère ou entrepreneur, être artiste ou entrepreneur, etc. On a tous des espaces où on se sacrifie à l'intérieur. Et à ce moment-là, en fait, quand je disais, ben non, j'arrête de transmettre sur la sexualité et je vais accompagner les entrepreneurs, j'ai des femmes qui venaient sur la sexualité. Et au bout d'un moment, j'ai dit, merde, ok, je vais créer un accompagnement qui mixe sexualité et entrepreneuriat. Orgasmic Creation, où j'accompagnais les entrepreneurs sur leur voie, sur leur créer une vie et un business qui les allume, est né comme ça. Et je trouve que c'est la voie du multipotentiel, de ne pas choisir pour véritablement faire naître des choses qui n'existent pas et qui vont être un véritable impact sociétal. Et j'ai oublié la première question que tu m'as posée.
Eh bien, la première question, c'était justement aujourd'hui, comment tu mixes cette pluralité, tes différentes casquettes? D'un point de vue, je parle plus d'un point de vue pour les multipotentiels ou les multipotentiels pas encore révélés, qui ne veulent pas choisir. Comment tu t'organises concrètement dans ton
Voilà.
quotidien?
Voilà, merci. Et justement, c'est une organisation. Je suis très structurée. En fait, vous me voyez très multiple. Je suis très connectée aussi. Mais un de mes talents et ce pourquoi de nombreux clients viennent à moi, c'est parce que je suis extrêmement structurée. Je suis très, très cadrée dans mes accompagnements, comment j'accompagne une structure. Et c'est très, 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 très clair. Donc, du coup, on dit souvent que, bah, tiens, moi, y a un côté très structuré et une grande folie, parce qu'effectivement, la structure permet, nous autorise à nous lâcher. Et c'est cette structure-là que j'applique dans mon quotidien. C'est-à-dire, bah, je vais programmer mes postes. J'ai pas une activité, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai mon activité en tant qu'artiste. Et j'ai mon activité aussi en tant qu'entrepreneur créative, CEO de Artform Global Change, où j'accompagne mes différents clients, artistes et entrepreneurs. Et donc, du coup, c'est des terres différentes. Et je vois ça comme un écosystème, comme un jardin. À un moment donné, je suis dans mon jardin et j'ai certaines plantes qui vont pas être au même stade de croissance. C'est-à-dire, là, peut-être que j'ai une plante qui va juste avoir besoin que je lui donne de l'eau parce qu'elle est dans cette phase. Alors que d'autres plantes, les fruits sont mûrs et c'est l'heure de la récolte. Et je trouve que c'est ce qui se joue dans ce multipotentiel, c'est que il y a certaines choses qui sont mûres et où, du coup, j'ai juste à en recevoir les fruits et d'autres qui vont nécessiter certaines choses. Et je trouve que c'est un système intelligent, en fait. Il y a une forme d'intelligence vibratoire, une intelligence vivante qui fait que, du coup, tout ne se fait pas au même moment. Parce que le multipotentiel, il ne fait pas plusieurs choses en même temps, il fait une chose, et puis quand il a terminé, il en fait une autre. Et parfois, bah tiens, par exemple, si je prends un exemple concret avec une toile, je commence une toile, et cette toile, je suis arrivée jusqu'au bout du processus de création pour le moment. Et il y a rien d'autre qui me vient. Et je vais laisser poser. Et parfois, je peux laisser poser pendant quelques jours, quelques mois, voire quelques années. Et entre-temps, ben, ça me donne de l'espace pour créer une nouvelle offre de service, pour accompagner d'autres de nouveaux clients, etc. Et puis, tiens, à un moment donné, je sens l'impulsion pour aller reprendre cette toile et continuer ce qui est fait. Donc, du coup, il y a cet aspect de la structure, de l'organisation, de la planification. Voilà, moi, par exemple, pour mon art, je me programme des journées. Par exemple, le vendredi, c'est une journée où je rentre souvent en processus de création et que j'envoie des emails à mon académie pour inviter les personnes à rentrer dans un processus pour leur vie, pour leur business. J'ai des momentums comme ça. Le premier du mois, bah, tiens, c'est un moment clé où je me laisse recevoir une transmission pour mon groupe. Il y a des petits temps forts comme ça. Et donc, du coup, c'est vraiment un mix entre la structure, l'organisation, la planification et aussi le ressenti, c'est-à-dire être très en connexion avec l'énergie de vie, avec ce que je ressens dans l'instant et donc être en connexion avec le corps. Ben, tout cela, ça fait une espèce de tambouille à l'intérieur et à un moment donné, tiens, je sais que j'ai à faire ça. Tiens, je sens l'impulsion et c'est à ce moment-là. Donc, c'est un mix entre, au final, être pleinement se laisser porter par cette énergie et à la fois, ben, avoir des temps de structuration, de planification. Mais vraiment, sans les temps de structuration, de planification, je pourrais pas, en fait, avoir, on va dire, oh, tu parlais, ben, tiens, de santé mentale, etc. Je pourrais complètement briller, je crois. Mais parce qu'en fait, pour créer, il y a besoin d'avoir une charge mentale libérée. Et le fait de structurer, de planifier, de poser des rendez-vous concrets pour certaines choses importantes, ça me permet d'avoir une liberté de penser et cet espace nécessaire, ben, pour créer, pour laisser recevoir ce qui a besoin de me traverser pour ma création. Voilà, c'est le vrai équilibre. C'est la même chose quand je disais, ben, cet équilibre du féminin, du masculin, c'est l'équilibre entre la structure et l'inspiration. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est vrai que dans mon univers, et depuis, on va dire, ma spécificité en tant que femme, en tant qu'être, je suis vraiment sur un chemin de réunion, d'unité. C'est ne plus choisir pour aller se rencontrer à l'intérieur, faire s'unir ces polarités. Et du coup, parce qu'on fait s'unir ces polarités, on peut vraiment se déployer dans sa multipotentialité, dans son... les Anglais utilisent le mot de wholeness, dans son... je n'ai pas encore la, tu sais, la bonne coloration, mais ça pourrait se
Dans son
dire dans son...
entièreté,
Dans son
l'entièreté.
entièreté, voilà, c'est ça.
J'adore l'image que tu mets, d'ailleurs je l'ai pris en note, que tu dis que tu mêles le côté structuré pour laisser place à ta grande folie. Et après, tu nous as partagé l'image du jardin. Moi, de suite, m'est venue l'image aussi de la permaculture, parce qu'en fait, les différentes activités et tes différentes casquettes, j'ai l'impression qu'elles se nourrissent entre elles et que tu as les moments, tu nous parles de saisonnalité, enfin, tu n'as pas parlé de saisonnalité, mais moi, ça m'a fait penser à la
C'est ça.
saisonnalité et du fait que, en fait, tu laisses infuser certaines activités qui sont à une autre saison, pendant que tu vas arroser et du coup mettre plus d'énergie sur d'autres activités. Et je trouve ça hyper intéressant pour les multipotentiels qui nous écoutent sur le fait d'essayer de se structurer et de se laisser la place à faire grandir ces activités de différentes manières. On peut pas tout faire à la fois, mais on peut faire différentes choses à différents moments. On va finir à la conclusion de la première partie, si tu veux bien, en 5 minutes. Le concept, c'est très facile, s'appelle le funk des idées. Je commence une phrase et toi, tu me la finis hyper spontanément avec ce qui te vient dans la tête. Ça te
Génial, j'adore jouer.
va? Alors, c'est parti. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que...
C'est ça. Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que le silence allait être une clé.
C'est de bon augure. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était...
De choisir.
Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était...
Pour les autres.
Ma plus grande peur, c'était...
D'être artiste.
Quand j'étais petite, je rêvais que je serais...
Grande.
Même si je suis une femme super occupée, je prends du temps pour moi quand...
J'en ai envie.
Génial. Du coup, ce podcast s'appelle Réinvention et il est fait par Happy Healthy Funky. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu voudrais nous partager qui te rend soit happy, soit healthy, soit funky dans ton quotidien d'artiste et d'entrepreneur multifacette?
Un truc qui n'a rien à voir, moi ce que j'adore, c'est le self-care, donc c'est-à-dire, c'est le skincare, c'est-à-dire, j'adore me faire plaisir avec des cosmétiques bio et clean, donc complètement naturel. Donc du coup, je me chouchoute, je me fais un spa à la maison pour mes pieds, pour mon visage, avec des gommages, des masques, des crèmes, ce quelque chose qui me fait voyager au niveau sensoriel. Et très souvent, dans ces moments-là, c'est des moments de détente, vraiment, et de déconnexion et de reconnexion. Et j'ai plein d'idées qui me viennent. Et à un moment donné, quand j'ai vraiment ressenti l'élan d'avoir vraiment des routines comme ça, plaisir avec mon corps le matin, le soir et quelquefois à des moments donnés dans ma semaine, j'ai eu un rêve et dans ce rêve, tu sais, toujours entre mi-éveil, mi-réveil, j'ai entendu, c'est le plaisir qui transforme. Et du coup, j'ai trouvé ça juste géant et c'est vraiment tout mon enseignement aussi en tant qu'artiste, c'est que la transformation, elle se vit parce qu'on se fait plaisir. Et ça, c'est essentiel que l'on soit artiste, qu'on soit sur un chemin, donc entrepreneur créatif, c'est ne pas choisir pourquoi, parce que ça nous fait plaisir. Et quand on écoute le plaisir, c'est là que l'argent vient. C'est là que ça se débloque au niveau financier et c'est juste ça. C'est faire les choses parce que ça nous fait plaisir et parce que ça nous fait plaisir, on se met à vibrer en quelque chose et on se sent pleinement qui nous sommes.
J'adore parce qu'on a commencé justement avec tout commence par un rêve et on finit par tout finit par un rêve et s'écouter avec le plaisir. Merci
Ouais.
beaucoup pour ce moment fabuleux, Evelyne. Où est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as une actualité que tu souhaiterais partager?
Moi, on peut me retrouver sur mon site internet, donc evelynetauromagnan.com. Alors, vous aurez tous les détails. Je suis aussi sur Instagram, mais je suis plus présent en dynamique sur LinkedIn, donc Evelyne Tauromagnan sur LinkedIn et sur ma newsletter. Et d'ailleurs, si vous voulez, là en ce moment, j'ai enregistré une méditation qui s'appelle La Réinvention. en écho à ton podcast, Réinvention, laisser faire éclore le nouveau. Donc, vous pouvez aussi rejoindre la newsletter et pouvoir bénéficier de cette méditation qui vous est offerte et qui vous parle de justement faire des premiers pas, passer à l'action, méditer pour laisser recevoir cette inspiration et y aller un pas à la fois. Donc, voilà, vous pouvez un peu me retrouver par ce biais-là. En tout cas, c'est une méditation que je vous offre avec joie et qui va pouvoir être une contribution pour vous.
On mettra
Donc
les
voilà.
liens du coup dans les ressources de cet épisode. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis. Justement, la transmission, ça fait partie de ton côté artiste. Merci pour ce moment. J'ai vraiment adoré, Evelyne. Merci
Ouais,
beaucoup.
moi aussi, merci beaucoup Nathalie, c'était juste génial. J'avais très très hâte de vivre ce moment avec toi. Ça vibrait, voilà, ça m'allume. En tout cas, merci beaucoup pour ton accueil et je suis ravie d'avoir pu transmettre ça. Et si je suis ravie que cela peut vous impacter, voilà, contribuer à votre vie et surtout, bah, faites pas comme moi, restez pas dans votre coin, seul, isolé, dans votre vie d'artiste. Aujourd'hui, il existe des ressources et si vous vous sentez un peu incompris dans votre entourage, c'est tout à fait normal, mais sachez que je suis là pour vous. Voilà, ne galérez pas. Moi, j'aime bien dire. Tu vois, j'aime bien dire que j'ai défriché le chemin, le vôtre en sera plus doux. Donc, profitez-en.
Parfait. C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram @happylcfunky ou sur LinkedIn @nathaniemedaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention. It ain't too many niggas that can handle me, but I might let you try it off the Hennessy.